les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans les ondes buissonnières, on retourne du côté des invisibles. Grâce à Charlie Delbois, avec un nouvel extrait de son podcast Invisible, au pluriel, que vous pouvez retrouver sur la plateforme de Blast, le média indépendant. Charlie, cette fois-ci, s'intéresse à la question des violences sexistes et sexuelles dans le quotidien des femmes qui travaillent dans la restauration, le ménage, l'aide à domicile, l'industrie ou l'agriculture, tous ces métiers que l'on dit essentiels et qui pourtant sont méprisés. Et c'est malheureusement dans ces secteurs que les violences sexistes et sexuelles, on apprend à faire avec. Aujourd'hui, on écoute l'épisode 3, Dénoncer, résister, s'organiser, ainsi qu'un bonus où Charlie Delbois apporte un éclairage juridique supplémentaire avec une interview de Tiffany Coinard, qui est juriste pour l'association Contre les violences faites aux femmes au travail. Bonne écoute.
Une création.
Blast.
Avant de commencer cet épisode, un mot important. Il est question ici de violences sexistes et sexuelles au travail. Certains récits peuvent donc être difficiles à entendre. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont contacté à la suite de mon appel à témoignage. Merci pour votre confiance et pour le courage que cela demande de se raconter. Bonne écoute.
Il est indispensable que la honte change de camp. Et la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur.
Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible?
Jamais j'aurais pensé me mettre en grève, c'est vraiment une première fois.
Et ça fait maintenant 5 ans qu'ils sont en train de renvoyer l'affaire.
Que ces personnes-là ne soient pas punies, c'est incompréhensible pour nous.
Les agressions sexuelles, c'était fréquent. C'était un cauchemar qui n'a pas arrêté depuis que j'ai commencé. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est pas réel. Il faut que tu donnes ton corps pour que tu travailles. C'est de la honte que des choses comme ça elles passent dans un pays européen qu'elles parlent des droits des femmes. En 2018, j'ai porté plainte au pénal. Pour les agressions sexuelles, pour les traites des êtres humains. Elles ont dit que oui, qu'elles vont nous convoquer, mais elles ne nous ont pas convoqués. Ils n'ont pas donné d'importance. Et ça fait maintenant 5 ans qu'ils sont en train de renvoyer l'affaire. Aujourd'hui, on est le 6 octobre 2025. Qu'on avait rendez-vous à 14h, et ils appellent à l'avocat à 9h du matin de dire « vous ne venez pas ». Ils font renvoyer l'affaire encore jusqu'en avril 2026. Comme ils ont peur d'être condamnés, ils sont en train de liquider tout ce qu'ils peuvent liquider. On leur donne le temps. De toute façon, ils ont le temps. 5 ans, 6 ans, ils ont le temps de liquider tous ces biens et d'ouvrir avec autre nom. C'est facile ici en France. Tu ouvres une société et après, si tu as une liquidation, tu ouvras autre. Normalement, ils sont en train de jouer pour que j'abandonne. Ça fait des années, mais moi, je ne vais pas abandonner. Je vais rester. On va rester comme ça. Hein. Si je vois que ça va rester traîner comme ça, on va frapper autre porte. Hein. On doit aller plus loin. Hein.
Il y a plein de raisons en fait, pour lesquelles les procédures judiciaires sont longues. Mais ce qui est central dans l'ensemble de ces procédures, c'est un manque de moyens.
Tiffany Coinard, juriste chargée de mission à l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail.
En fait, la justice, c'est un service public. Vous voyez ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui, avec la fermeture de lits, de services, etc. Vous voyez ce qui se passe dans l'éducation nationale. La justice, c'est un service public comme les autres. Et donc, ce qui se passe, c'est des moyens de plus en plus faibles, des professionnels du droit qui ne sont pas remplacés, donc on va nous renvoyer un dossier parce que celui qui devait juger l'affaire n'est pas remplacé, il est parti à la retraite. Et après, il y a aussi des questions de manipulation de la part de la partie adverse qui va tout faire pour prolonger la procédure, demander des renvois tous les quatre matins, avec très très peu d'opposition face aux demandes de renvoi. Hein, devant les conseils de prud'hommes, ils acceptent systématiquement les demandes de renvoi. Alors qu'ils pourraient très bien dire, bah non, en fait, tout le monde est en état, le calendrier de procédure a été respecté, maintenant, ça se plaide et voilà, et c'est comme ça. Mais les demandes de renvoi sont quasi systématiquement acceptées. Cet épuisement, en fait, c'est aussi une manière de continuer de victimiser la victime. Cette stratégie de faire perdre beaucoup de temps, et donc d'arriver en procès 7 ans, 8 ans après les faits, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au pénal, il y a un principe qui est qu'une peine doit avoir un sens. Et ce qui nous est souvent opposé sur la peine, c'est là, ça fait 7 ans que les faits se sont produits, ça n'a pas de sens d'appliquer une peine longue, une peine importante, 7 ans après les faits. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, en fait, il faut juste qu'on fasse avancer les procédures et que la procédure ne dure pas 7 ans. Mais ça ne peut pas reposer sur la victime. Donc voilà, ça c'est une difficulté qu'on a effectivement aussi. La difficulté majeure pour les victimes aujourd'hui, c'est un isolement. Au moment de dénoncer les faits, elles sont souvent seules à porter leur dénonciation. Et c'est vraiment compris comme une problématique individuelle, voire même parfois comme un conflit, alors que les violences masculines au travail, c'est avant tout parce que le climat le permet, parce que la culture de l'entreprise ou de l'administration le permet, parce qu'il y a des facteurs de risque qui n'ont pas été identifiés, qui n'ont pas été supprimés, parce que l'employeur ne respecte pas ses obligations. C'est tout ça, en fait, qui fait qu'un agresseur peut agresser. Dénoncer, c'est s'opposer au statu quo. Et donc, c'est faire bouger les lignes. Donc, dans certains collectifs de travail, c'est déjà trop. Donc, ça veut dire qu'on va faire subir des représailles à la victime, qu'on va essayer de la pousser à partir, parce qu'on veut préserver le statu quo. Et donc, si on est dans un espace de travail dans lequel il y a de la solidarité, dans lequel les travailleurs et travailleuses se mobilisent autour de la victime et l'accompagnent dans ses démarches, et la soutiennent, on a déjà gagné une bonne partie du chemin, en fait. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est plus de solidarité dans les collectifs de travail. C'est ça qui est primordial, en fait. Le nombre et le soutien. Et c'est ça qui change tout.
On peut entendre « tu n'es qu'une blonde, tu ne sais pas réfléchir ». Ça peut être du genre, ils prennent une baguette en main et ils le mettent à hauteur de leur sexe, imitant leur sexe. Ça peut être de la part du N+2, si tu veux que je te réponde, je veux mon câlin et mon bisou. Tout se rapporte au sexe et ça, c'est à longueur de journée. Moi, je m'appelle Valérie Quesnel, j'ai 48 ans et je travaille au théiage Vente de Candelaer qui se situe dans le Calvados à Bourg-et-Bus. À l'intérieur des entrepôts, c'est très poussiéreux. On travaille sur des énormes machines qui sont pas du tout robotisées. C'est vraiment nous, de A à Z, qui travaillons la matière. Je suis agent de production en lin et je travaille dans le troisième bâtiment, c'est-à-dire à la finition de la transformation du lin. Lors d'un repas de Noël l'année dernière, en 2024, j'ai un collègue qui m'a sauté dessus, il m'attrapant les bras pour pouvoir m'embrasser et ça devant toute la direction. Et il n'y a eu aucune sanction. Aucune sanction. La seule chose que la direction a pu faire, c'est me renvoyer mon agresseur en lui disant, écoute, va t'excuser, ça suffira, parce que si elle porte plainte, on risque des ennuis, sachant que la société fournissait de l'alcool et que cette personne, en plus, était assez alcoolisée. Donc, de peur, plus d'avoir des représailles concernant l'alcool que l'agression en elle-même. Les hommes qui sont là-bas se sont toujours permis ce genre de choses, ce qui fait qu'ils se couvrent les uns les autres. On n'avait pas envie de continuer de travailler dans ces conditions-là. Donc, nous avons décidé de dénoncer cela. ça fait 3 mois que nous avons commencé cette grève. Depuis le 18 septembre jusqu'à aujourd'hui, on pensait que la direction allait réagir face aux mouvements de grève, les dénonciations et autres. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun dialogue avec la direction. Au départ, il prétextait même que en fait, c'était de la diffamation, des calomnies, ce genre de choses. Il y a eu un dépôt de plainte, il y en a même eu plusieurs. Moi, mon agression, j'ai déposé plainte. Une de mes collègues qui a été touchée, c'est pareil, a déposé plainte. Et ça va faire déjà un an. Et suite à ces plaintes, on s'aperçoit que rien ne bouge. Au niveau de la justice, c'est pareil. Il y a un blocage quelque part et on ne sait pas pourquoi. On n'a toujours pas de date d'audience, on n'a rien du tout. Que ces personnes-là ne soient pas punies, c'est incompréhensible pour nous. Et psychologiquement, c'est de pouvoir les croiser tous les jours et eux, ils ont le grand sourire. Et nous, moralement, on est atteintes, en fait. Même de la part de notre direction, notre cher directeur a eu l'audace de nous répondre « Eh bien, maintenant, si on ne peut plus mater des culs librement, ça fait peur de dénoncer ces choses parce que, peur de perdre son travail. Moi, pour ma part, je suis seule avec 2 enfants. Donc, perdre mon travail, ça serait dramatique pour moi. Mais maintenant, j'ai plus peur parce que on affronte notre directeur, on est face à eux, droit dans les yeux, on leur parle et limite, on voit que c'est eux qui ne se sont pas à l'aise. Et aujourd'hui, j'en suis fière. C'est moi et mes collègues, c'est ce qu'on se dit. On est fiers de ce combat. Et c'est pour ça qu'on aimerait justement pousser les gens à dénoncer ce genre de choses. On n'a pas envie de lâcher cette entreprise pour que ça continue encore et encore des années.
Dénoncer des faits pour toutes les victimes, c'est difficile. La première difficulté que rencontrent les femmes, en fait, elle est économique. C'est « est-ce que je vais perdre mon travail ?» Donc c'est très matériel tout ça. Vraiment l'aspect économique, il irrigue tous les choix que vont faire les victimes. Et puis après, il peut y avoir d'autres contraintes qui vont venir réduire les marges de manœuvre. Je pense aux victimes étrangères qui ont un titre de séjour. Dans certains cas, le titre de séjour est lié au contrat de travail, ce qui signifie que si on perd l'emploi, on perd aussi le titre de séjour. Donc les femmes étrangères sont particulièrement exposées et ont une difficulté supplémentaire à pouvoir dénoncer les faits. Et puis, bien sûr, d'autres discriminations structurelles, par exemple la situation de handicap, où on sait que trouver un emploi en situation de handicap, c'est déjà une difficulté particulière. Donc, quand on en a un, on y tient et on fait tout ce qu'on peut pour le maintenir, se maintenir dans l'emploi. Et donc, c'est ce qui va aussi faire que les victimes vont beaucoup prendre sur elles, mettre de côté, développer des stratégies d'évitement, etc., pour se maintenir le plus longtemps possible dans l'emploi, malheureusement au détriment de leurs conditions de travail et de leur santé.
Jamais j'aurais pensé me mettre en grève, c'est vraiment une première fois. Moi, ça m'a changé, ça a changé mon caractère, ma vision des choses. Moi, je sais que j'ai une fille et j'ai pas envie qu'elle se retrouve dans une entreprise où il y a du harcèlement. Donc, il faut dénoncer, faut pas lâcher, faut pouvoir dénoncer ce genre d'entreprise où il ne se passe rien. Il ne faut pas se dire, écoutez, je démissionne et puis je vais aller voir ailleurs si c'est mieux. Ce qui me fait tenir aujourd'hui, c'est le soutien qu'on peut avoir. On a beaucoup de soutien de gens vraiment qu'on ne connaît pas. Parce que c'est pas une lutte où on demande simplement une augmentation ou un problème sur des horaires ou autre. C'est quand même un problème qui est dramatique de subir des violences sexuelles, des propos sexistes et sexuels à longueur de journée. Et ce qui me fait tenir aussi, c'est qu'on s'aperçoit qu'au sein de la société, on a certaines personnes qui sont avec nous. On nous le dit clairement, que bon courage, on vous soutient. Mais ils le font très rapidement parce qu'ils ont peur aux représailles. Mais on sait qu'on a quand même du soutien à l'intérieur. Moralement, physiquement, c'est compliqué, on va pas se le cacher, mais c'est un combat, on va dire, qu'on doit mener, qu'on doit pas lâcher. Voilà, on veut tenir et on fera le nécessaire, mais on veut que ça soit puni. Voilà mon espoir, c'est que d'autres femmes puissent bouger comme nous on peut le faire au jour d'aujourd'hui.
La peur que j'ai en faisant ce témoignage-là, c'est que, qu'il y ait des gens qui pensent que je mens. Elle n'a pas pu vivre en 9 ans autant d'expérience. Et à un moment donné, elle ment, c'est sûr. Vraiment, le truc qu'on ne me croit pas. On me l'a déjà formulé, « Non, mais là, t'en fais trop. T'exagères. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. » Mais non, non. J'ai aucun intérêt à mentir. Et oui, c'est gros. J'ai conscience que ça soit énorme. Et c'est pour ça aussi qu'il faut témoigner. Qu'il faut qu'il y ait des gens qui en parlent. Je suis sûre qu'il y a encore plein de milieux qui sont silencieux et qu'on va découvrir dans quelques années peut-être. Toutes nos paroles ne sont pas encore libres, n'ont pas encore été dites. Il ne faut vraiment pas qu'on lâche.
Cette lutte contre les violences sexuelles, elle va de pair avec une lutte sociale en fait. Avec une lutte sociale pour des meilleures conditions de travail, pour le respect en fait du corps des salariés de manière plus globale quoi. À Nantes, moi, je suis syndiquée au Front Uni de la Restauration, qui est le premier syndicat de travailleuses et travailleurs de la restauration. Donc, je pense que déjà, ce genre d'initiative, c'est aussi un premier pas aussi pour s'organiser collectivement, pour se soutenir et pour dénoncer ce genre de pratiques et puis pour faire changer les choses. Mais il y a quand même beaucoup de peur dans un petit milieu qui laisse penser aussi que si tu parles, tu te fais griller. Bon, après, c'est certainement vrai. Hein. Moi, je pense que je ne retrouverai jamais de travail dans la restauration à Nantes. Hein. Effectivement, il y a une peur aussi qui peut être légitime. Il y a des patrons qui ont quand même un certain pouvoir aussi. Moi, j'appelle à tous les gens qui travaillent dans la restauration à porter un regard politique sur ce secteur-là et puis à s'organiser collectivement et puis avec une solidarité en fait. Je pense que c'est un milieu qui a été un peu trop individualiste pendant longtemps, mais je pense qu'on a tout intérêt à faire attention les uns aux autres et puis en fait à mettre en place aussi des moyens de pression. Je pense que beaucoup de choses vont se jouer aussi dans la grève. Je pense qu'il va vraiment falloir qu'on montre qu'en fait c'est nous qui produisons cette richesse que sont ces établissements de la restauration. Je pense qu'il va falloir passer effectivement par un rapport de force, à mon avis, avec le patronat. Ouais.
Ma lutte, ça dépasse le milieu agricole. Ma lutte, c'est pour toutes les femmes. Pour toutes les femmes, n'importe qu'elles soient travailleuses agricoles, qu'elles soient caissières, qu'elles soient hôtelières, qu'elles soient n'importe. On lève la voix et de dire « Basta, c'est mon corps que tu n'as pas le droit de toucher ». Si moi, je ne veux pas que tu le touches. J'espère que toutes les femmes qui sont en train maintenant, qu'elles m'écoutent et qu'elles subissent des harcèlements sexuels, des violences sexuelles, des agressions et des viols, qu'elles cassent le silence et qu'elles sortent. Que tous unis, on peut arriver. Qu'il ne faut pas être peur. Qu'il ne faut pas avoir de la honte. Ce n'est pas notre faute. C'est eux, il faut que ce soit de la honte. Et que ce n'est pas notre corps qui est une arme contre nous. Il faut sortir, il faut parler. Parce que si on ne parle pas, si on ne sort pas, ça va rester impuni comme ça. J'espère de continuer de ramener cette lutte jusqu'à la fin, de briser le silence.
C'est pas des blagues. C'est pas drôle. Et si c'est un jeu, puis c'est nul votre jeu.
Pendant la réalisation de cet épisode d'Invisible sur les violences sexistes et sexuelles dans les métiers précaires, j'ai souhaité apporter un éclairage complémentaire, notamment juridique, pour mieux comprendre comment ces situations sont définies et traitées. J'ai donc tendu longuement mon micro à Tiffany Coisnard, juriste à l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Cet entretien bonus apporte des repères juridiques pour mieux comprendre ce qui se joue derrière ces situations et mettre des mots sur des mécanismes souvent banalisés. Il donnera, je l'espère, des clés pour reconnaître les violences et savoir vers qui se tourner. Si vous êtes concerné, vous pouvez vous rapprocher de l'AVFT ou d'associations spécialisées dans l'accompagnement de victimes de violences au travail. Et si vous n'avez pas encore écouté les 3 épisodes d'Invisible consacrés à ce sujet, je vous recommande de commencer par là, puis de revenir ici pour aller plus loin. Bonne écoute.
Je m'appelle Tiffany Coisnard, je suis juriste chargée de mission à l'AVFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. C'est une association qui est née en 85, donc qui fête ses 40 ans cette année. On agit sur 3 volets principaux. Le premier, c'est l'accompagnement des victimes de violences masculines au travail, avec une spécialisation sur les violences sexuelles en particulier. Par violence sexuelle, j'entends tout type de propos ou comportements à connotation sexuelle. Donc ça peut être des agissements sexistes, du harcèlement sexuel, du harcèlement sexiste, des agressions sexuelles, exhibitions sexuelles et viols. Le deuxième volet sur lequel on agit, c'est de la sensibilisation et de la formation, où on va dans les collectifs de travail. On sensibilise les collectifs pour que les victimes puissent avoir des outils et les témoins et personnes ressources puissent aussi avoir des outils pour être des points de relais auprès des victimes et faire en sorte que la lutte contre les violences soit une responsabilité collective et qu'il y ait une multiplicité des voies de saisine pour les victimes. Qu'elle soit pas dans l'obligation en fait de se tourner vers la seule personne ressource qu'il y a dans le collectif ou vers la direction quand il y a pas de personne ressource parce que c'est une étape que les victimes sont pas toujours prêtes à franchir selon leur temporalité, etc. Et puis le troisième volet sur lequel on agit, c'est le plaidoyer. Donc on va intervenir par exemple à l'Assemblée nationale dans le cadre de commissions quand il va y avoir des propositions de loi ou projets de loi, on va être auditionné pour apporter nos observations, le point de vue de l'AVFT qui est un point de vue du coup sur nos dossiers, donc sur, j'aime pas trop dire ça, mais un point de vue de terrain entre guillemets, pour apporter de la réalité dans des sphères qui souvent sont déconnectées en fait de la réalité. On n'a pas vocation à faire de l'accompagnement de masse. Notre but, c'est pas d'accompagner le plus de victimes possible. Notre but, c'est plutôt de faire évoluer le droit pour qu'il soit bénéfique à toutes. Donc ça veut dire, par exemple, aller dans des dossiers où il y a une difficulté juridique particulière ou bien où il y a une omerta particulière du fait du secteur de travail, par exemple, et faire entendre justement l'analyse féministe juridique de l'AVFT pour que, à l'issue de ce dossier-là, de cette procédure-là, il y ait des évolutions juridiques sur lesquelles après on puisse s'appuyer dans d'autres dossiers. Et donc le but, en fait, c'est que le droit évolue avec la réalité pour apporter de la réalité dans le droit, en fait. Dans le cadre du travail, on va parler beaucoup de harcèlement sexuel comme un terme parapluie, puisque le Code du travail, en fait, ne pense pas différentes infractions avec une échelle de gravité, comme on peut le voir dans le Code pénal. En fait, dans le Code du travail, on a un article sur le harcèlement sexuel qui parle de propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui a des conséquences néfastes sur la victime. Donc, qui va créer un climat hostile ou offensant, qui va créer un climat intimidant pour la victime, etc. Donc en fait, par propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste, on va entendre tout type d'agissement, peu importe que ce soit des confidences de la part de l'auteur sur sa vie intime ou bien des questions intrusives sur la vie intime de la victime, des blagues entre guillemets à connotation sexuelle. Ça peut être l'envoi de gifs ou de mèmes pornographiques ou à connotation sexuelle. Ça peut être des demandes implicites comme explicite, c'est important de retenir que c'est bien connotation et pas caractère. Donc ça veut dire que tous les comportements qui sont insidieux peuvent quand même être couverts par ce texte, hein. Et donc ce qui est intéressant, oui, dans le Code du travail, c'est justement de voir qu'il n'y a pas d'échelle de gravité qui est pensée entre les différents comportements, puisque en réalité, quand on pense une échelle de gravité, dans le Code pénal par exemple, on va le penser par rapport à une échelle de peine. Ainsi, le Code pénal, il crée différentes définitions, harcèlement sexuel, exhibition sexuelle, agression sexuelle, viol, c'est simplement parce qu'il va penser des peines différentes en fonction des comportements qui sont visés. Ça, c'est quelque chose ou féministement, nous, on ne souscrit pas à cette idée d'échelle de gravité, puisque donc en dehors de cette idée d'échelle de peine, en fait, ça n'a pas vraiment de sens. D'abord parce que ces comportements, ils sont issus de la même racine, qui est le patriarcat et la hiérarchisation des individus en fonction de leur catégorie de sexe. Je parle de sexe au sens social, hein, je précise. Et donc, on va catégoriser les personnes et les hiérarchiser en fonction de leur statut dans la société. Et c'est ça, en fait, qui crée un rapport de pouvoir inégal sur lequel la classe des hommes va se fonder pour pouvoir commettre les violences. Et donc, peu importe que ces violences, ce soit des propos, donc du harcèlement sexuel, ou bien des comportements, par exemple, des contacts physiques qui sont imposés, donc des agressions sexuelles, ou bien des viols, peu importe l'échelle de gravité en fait, qui est pensée par le code pénal, ces comportements, ils sont bien issus du patriarcat et de cette hiérarchisation des individus et de ce rapport de pouvoir. Donc c'est la première raison pour laquelle ça n'a pas vraiment de sens d'imaginer qu'il y a une gravité différente en fonction des comportements. Ensuite, ces comportements, ils induisent, et en particulier au travail, les mêmes conséquences. En fait, nous, dans nos dossiers, on a des victimes de harcèlement sexuel, on a des victimes de viol, on a des victimes d'agression sexuelle. Et ce qu'on voit dans tous nos dossiers, c'est une dégradation de l'état de santé, une perte de l'emploi dans beaucoup de cas. Lorsqu'il y a une perte de l'emploi, c'est accompagné de plusieurs mois, plusieurs années à galérer, à retrouver quelque chose, à avoir vraiment un déficit de confiance dans le cadre du travail, à avoir des grosses difficultés à réintégrer un collectif de travail. Les conséquences également sur la vie de famille, sur la sphère personnelle, sur les amitiés, sur en fait toutes les sphères de la vie qui sont complètement atteintes par les violences et par une victimisation secondaire aussi, parce que les victimes, lorsqu'elles dénoncent, il y a aussi le fait de ne pas être soutenues, qui est une seconde violence, le fait aussi de subir des représailles pour avoir dénoncé les faits. Et tout ça, on va le retrouver dans tous nos dossiers. Et on voit aussi ce qu'on appelle le continuum des violences, l'idée que ces violences, elles sont continues tout au long de la vie. Ça veut dire que quand on est en étant une fille, on va subir des violences sexistes et sexuelles tout au long de la vie. Par exemple, dans la cour de récré, on va être sous le préau pendant que les garçons jouent au foot et s'approprient toute la cour de récré. On va nous reprocher de ne pas nous maquiller quand on est adolescente parce qu'on est négligée. Et puis, en fait, quand on va se maquiller, on va être traité de pute ou de salope. Quand on a les premières relations amoureuses, les premières relations sexuelles, on va être très vite exposé à des violences conjugales. Je rappelle que les violences conjugales, contrairement aux idées reçues, ça concerne aussi beaucoup les adolescentes. Et donc, quand on va arriver dans les premiers emplois, les premiers stages, contrats d'alternance, etc., emplois saisonniers, etc., qui cumulent beaucoup de facteurs de risque également, on va se retrouver aussi confronté à des rapports de pouvoir et donc à de la violence. Quand on pense les différentes violences au prisme de ce continuum, ça n'a pas de sens de les hiérarchiser entre elles, puisque le harcèlement sexuel qu'on va vivre à tel moment de la vie, on le subit après avoir subi un viol 5 ans avant, par exemple, ou l'inverse, etc. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est un tout, le continuum des violences. Les conséquences de cette hiérarchisation des violences, ça a pour effet de pousser les victimes à minimiser. Il y a toujours plus grave. Donc les victimes qui subissent du harcèlement sexuel, c'est souvent comme ça qu'elles nous contactent, avec des phrases un peu du type « je sais que vous avez plus grave à traiter, mais moi j'en peux plus ». Voilà. Et en fait, oui, il y a toujours plus grave. Il y a toujours plus grave, c'est toujours comme ça qu'on nous contacte. Et donc c'est justement une des raisons pour lesquelles on lutte contre cette idée qu'il y a une échelle de gravité entre les violences, puisque ce qui se passe après, c'est que les victimes ne se sentent pas légitimes à se dire victime, à se comprendre victime et à dénoncer les violences. Je pense qu'une des premières choses à faire pour lutter contre cet état de minimisation de la part des victimes elles-mêmes, qui va aussi avec une forme de culpabilisation, c'est d'abord de les rassurer sur le fait que l'ensemble de ces violences sont graves indépendamment de la manière dont elles sont traitées par le code pénal. La définition des violences, c'est pas que un sujet juridique, c'est aussi un sujet social, c'est aussi un sujet féministe. Féministement, on n'a aucun intérêt à hiérarchiser les violences. Dès qu'on a des mails avec des choses comme ça, du type « je sais que vous avez plus grave à traiter », on leur dit « on serait incapable de faire notre travail correctement si on estimait que ce que vous subissez, c'est moins grave que ce que subit une autre ». Parce que ça voudrait dire qu'on hiérarchise aussi les victimes entre elles, finalement. Et donc, on va prioriser des victimes en fonction de ce qu'elles ont subi. Et ça, c'est hors de question, parce que quand on lutte contre le patriarcat, on lutte contre tout ce qu'il crée. Et donc, que ce soit le harcèlement sexuel ou des viols ou des agressions sexuelles, pour nous, c'est pareil. Toutes ces violences-là doivent disparaître. En termes de chiffres, c'est un peu compliqué parce que, en tout cas au travail, les chiffres qu'on a ne sont pas récents. On a plusieurs études, donc il y en a une de la Défenseure des droits qui était très bien en 2014, qui a révélé des chiffres sur la normalisation de l'envoi de montage ou GIF ou même pornographique, par exemple, qui était, je crois, autour de 60% dans mon souvenir. 60% des répondants et répondantes estimaient que c'était quelque chose de fréquent au travail. Et les chiffres montraient une femme sur cinq victime de harcèlement sexuel. Mais du coup, c'était 2014. 2014, on est avant MeToo, donc avant aussi une confiance, en tout cas, dans la possibilité de s'exprimer, d'exprimer les violences qu'on subit. Peut-être que refaire cette étude post-MeToo apporterait des nouveaux chiffres qui seraient probablement revus à la hausse, du coup. Donc, nous, aujourd'hui, justement, ce qu'on dénonce, c'est une absence de chiffres. On veut des grandes études. Et la VFT, actuellement, travaille à de la recherche en fait sur ses propres dossiers pour extraire des chiffres, mais on manque cruellement de chiffres. Or, les chiffres, c'est la première chose dont on a besoin pour mettre en lumière une problématique et pouvoir y répondre en fait. Donc ça fait partie du problème en soi, l'absence de chiffres. Et après, sur les évolutions qu'on a pu voir et sur les violences et sur le traitement des violences, alors il y a des évolutions qui sont en lien avec l'évolution technologique. Par exemple, on voit beaucoup dans nos dossiers l'outil numérique qui est utilisé pour commettre des violences. Et donc ça, c'est intéressant de le dire parce que il y a encore une idée reçue, par exemple, sur l'idée que l'agresseur est en télétravail, la victime, elle est tranquille, il va plus rien lui arriver. Le harcèlement sexuel, ça peut être aussi des messages, des envois de montage, de photos, etc., que ce soit par SMS, sur les chats internes. Le harcèlement sexuel environnemental, il peut beaucoup avoir lieu sur les chats internes de l'entreprise. C'est ce qu'on voit dans certains secteurs. Et puis, sur le traitement des violences, contrairement aux idées reçues, en fait, MeToo a permis de mettre la lumière sur l'aspect systémique des violences et de faire en sorte que nos voix ne soient plus ignorées. Puisqu'on parle beaucoup de liberté de la parole, c'est pas vrai, les femmes, elles parlaient déjà avant, elles ont toujours parlé, elles ont toujours dénoncé les violences, mais elles n'étaient pas écoutées. MeToo a été tellement massif qu'on a dit, aujourd'hui, il n'y a plus le choix et il va falloir qu'on nous écoute. C'est ça ce qui s'est passé avec MeToo. Et par contre, ça a été accompagné d'idées reçues, comme quoi, depuis MeToo, les violences sont vraiment mieux traitées, tout le monde est formé pour les traiter, il y a plus de condamnations, etc. C'est faux. Il n'y a pas plus de condamnations, au contraire. Les condamnations baissent. On est face à une évolution aussi des stratégies de défense dans les procédures, où ils vont en fait instrumentaliser un regard féministe. La notion de consentement n'apparaissait pas dans la définition du viol jusque très très récemment. Et donc, qui vont définir des outils féministes à travers un prisme d'agresseur, en fait. Et donc, aujourd'hui, on est de moins en moins face à une défense brutale, type ce qu'on a vu dans le dossier de Gérard Depardieu avec Jérémy Assous, mais plutôt une défense qui va se trouver parfois compatissante avec les victimes, qui va instrumentaliser un vocabulaire féministe et qui est finalement tout aussi blessante parce que c'est très insidieux. Ça, c'est une évolution qu'on peut voir. On a beaucoup, ces derniers temps, dans nos décisions, notamment au pénal, des peines, donc, quand il y a des condamnations, des peines assez dérisoires, mais ça, malheureusement, c'est pas récent. Mais ce qu'on peut voir, par contre, qui est assez récent, c'est dans l'explication de la peine, des décisions qui vont dire des choses du genre « monsieur, il peut pas être responsable du patriarcat, en fait ». Comme si c'était ça ce qu'on disait quand on apportait nos observations devant les juridictions. Finalement, en fait, tous les travaux féministes, et notamment les nôtres, sur les facteurs de risque d'un secteur, sur les stratégies des agresseurs, etc., deviennent des instruments de déresponsabilisation des agresseurs pour dire finalement, ils ne sont que le produit de la société, ils ne sont que des coquilles vides influencées par la société de laquelle ils sont le fruit. Et donc, d'un seul coup, ils sont plus responsables de leurs actes, quoi. Nous, quand on fait ces travaux-là, c'est avant tout pour mettre en avant la responsabilité des employeurs, la responsabilité dans un secteur, et de voir que c'est utilisé pour déresponsabiliser les agresseurs. C'est très violent, et pour les victimes, et pour l'association. Le harceleur ou l'agresseur, il n'a pas de profil type, contrairement aux idées reçues, là encore. C'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est le supérieur hiérarchique parce que il y a un rapport de pouvoir qui est contractualisé, donc qui est particulièrement clair en la défaveur du coup de la victime. Et effectivement, on a des dossiers dans lesquels c'est le cas, mais en fait, on est autour de un peu plus de 70% où le harceleur est en fait un collègue ou un usager lorsqu'il s'agit d'un service ou un patient ou un client, etc. Et en fait, c'est parce qu'il y a d'autres rapports de pouvoir qui, eux, ne sont pas contractuels, mais qui existent quand même. Vous regardez deux collègues donc, qui ont le même poste, mais il y en a une qui est là depuis 2 ans et l'autre qui est là depuis 10 ans. Il y a un rapport de pouvoir du fait de l'ancienneté. Quand il y a une différence d'âge particulière, l'auteur qui a 50 ans et la victime qui en a 22, évidemment qu'il y a aussi un rapport de pouvoir. Parfois, ce sont des collègues dans le sens où il n'y a pas de lien hiérarchique, mais le poste est différent. Et en fonction des responsabilités sur chaque poste, il va y avoir une hiérarchisation de fait. Parfois, le rapport de pouvoir, il peut aussi être le fruit du statut, s'il y a un CDD ou un CDI. Il peut être aussi le fruit des fonctions même, en fait, du poste lui-même. Il y a des postes sur lesquels c'est très dur de recruter, d'autres sur lesquels on sait que si on licencie, on va avoir beaucoup de personnes qui vont rechercher ce poste. Et donc, cette distinction-là, si elle est en faveur de l'agresseur, en fait, ça crée un rapport de pouvoir très important, très conséquent. En gros, ce que ça signifie, c'est que l'agresseur sait qu'on ne peut pas le dégager de l'entreprise. Et ça, il faut bien le garder en tête parce que c'est vrai que, et notamment devant les juridictions, c'est encore difficile à comprendre aujourd'hui. Il y a encore des gens qui partent du principe que si ce sont des collègues, c'est horizontal et donc il n'y a pas de rapport de pouvoir. Et donc, ils ont du mal à analyser les faits, en fait, à avoir ce prisme sur où était le pouvoir et donc où était la contrainte pour la victime. Et ça, c'est primordial pour pouvoir analyser les violences. Je ne peux pas dire qu'il y a des environnements de travail qui sont plus propices à la commission de violences parce que on voit que les violences, elles sont partout. Voilà. C'est trans-classe, c'est trans-secteur, si je puis dire. Par contre, quand on va voir les violences, on va aussi les analyser au prisme du secteur dans lequel elles sont commises, à travers donc les facteurs de risque de ce secteur, à travers aussi la culture d'entreprise, la culture du milieu. Donc on va pas voir les mêmes choses dans la tech que dans l'armée, dans la santé. Chaque milieu va avoir ses propres facteurs de risque. Mais je peux pas dire qu'il y a des milieux qui sont plus propices. La sous-traitance, c'est un facteur de risque en tant que tel. C'est particulièrement dangereux parce que, du coup, il y a un abandon de la part de chaque structure de leurs propres obligations. En fait, donc dans la sous-traitance, il va y avoir une structure employeuse de la travailleuse et puis une structure cliente de la structure qui emploie la travailleuse et la travailleuse va aller intervenir dans la structure cliente. Et en fait, le risque ici, quand il y a des violences dans ce cadre-là, c'est que l'employeur de la victime va dire « moi, ça me concerne pas parce que les violences, elles se sont pas passées dans mon siège, elles se sont passées dans la structure dans laquelle tu interviens ». Et à l'inverse, la structure dans laquelle la victime est intervenue va dire « ah bah oui, mais moi j'ai pas de contrat de travail avec toi, donc ça me concerne pas ». Voilà. Et puis l'idée, c'est que du coup, bah ça concerne personne, personne n'est responsable, et puis comme ça on s'arrête là, quoi. C'est pas du tout une problématique juridique, hein. Juridiquement, on a les éléments pour replacer la responsabilité de chacune de ces structures. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière, en fait, normalement. Mais ça rend la situation plus opaque pour la victime, qui ne sait pas, du coup, qui est responsable, qui elle va pouvoir saisir. Et ça permet aux employeurs de se dédouaner de leur responsabilité. La première difficulté quand les femmes veulent dénoncer les faits, c'est « est-ce que je vais perdre mon travail ?» C'est vraiment la première question qui se pose. Dénoncer, c'est s'opposer au statu quo. Et donc, c'est faire bouger les lignes. Donc, dans certains collectifs de travail, c'est déjà trop. Donc, ça veut dire qu'on va faire subir des représailles à la victime, qu'on va essayer de la pousser à partir, parce qu'on veut préserver le statu quo. Donc, la première difficulté que rencontrent les femmes, en fait, elle est économique. Après, faut aussi voir quel statut ont les femmes dans leur famille. Est-ce que c'est une famille monoparentale où, en fait, si elles ne travaillent pas, ben, c'est juste, elles peuvent plus rien faire, elles peuvent plus payer le loyer, elles peuvent plus nourrir leur enfant, etc. Est-ce qu'elles peuvent compter sur le conjoint qui lui aussi a un emploi? On voit des choses dans la manière dont les femmes vont dénoncer les faits et leur temporalité, qui sont très très matérielles. Hein. J'ai un dossier par exemple où la victime était en couple avec un homme qui percevait l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé, de manière temporaire parce qu'il avait eu un accident de travail et elle attendait qu'il reprenne le travail pour pouvoir dénoncer les violences qu'elle subissait au travail en se disant comme ça, si je perds l'emploi, on aura quand même un salaire du conjoint, quoi. Vraiment, l'aspect économique, il irrigue tous les choix que vont faire les victimes. Et puis, après, il peut y avoir d'autres contraintes qui vont venir réduire les marges de manœuvre. Je pense aux victimes étrangères qui ont un titre de séjour. Dans certains cas, le titre de séjour est lié au contrat de travail, ce qui signifie que si on perd l'emploi, on perd aussi le titre de séjour. Donc, les femmes étrangères sont particulièrement exposées et ont une difficulté supplémentaire à pouvoir dénoncer les faits. Et puis, bien sûr, d'autres discriminations structurelles, par exemple la situation de handicap, où on sait que trouver un emploi en situation de handicap, c'est déjà une difficulté particulière. Donc, quand on en a un, on y tient et on fait tout ce qu'on peut pour le maintenir, se maintenir dans l'emploi. Et donc, c'est ce qui va aussi faire que les victimes vont beaucoup prendre sur elles, mettre de côté, développer des stratégies d'évitement, etc., pour se maintenir le plus longtemps possible dans l'emploi, malheureusement au détriment de leurs conditions de travail et de leur santé. Il y a plusieurs voies de saisine pour les victimes qui sont internes et externes à l'entreprise ou l'administration. Elles peuvent saisir les syndicats, le CSE, les représentants du personnel. Elles peuvent saisir les personnes ressources de type référent harcèlement sexuel. Elles peuvent saisir l'inspection du travail, la médecine du travail. Et en fait, c'est très important d'avoir cette multiplicité de saisines parce que sur l'ensemble de ces acteurs et actrices que je viens de vous citer, on voit régulièrement des défaillances. Une inspection du travail qui va être tellement sous l'eau qu'elle va avoir de mauvais réflexes, même de bonne foi. Hein, je ne parle pas de mettre des bâtons dans les roues volontairement à la victime, mais simplement qui va développer des mauvais réflexes ou qui va être trop lente ou qui ne va pas pouvoir mobiliser l'ensemble des outils qu'elle devrait pouvoir mobiliser pour des questions de moyens. Notamment. Mais on va aussi voir des inspecteurs et inspectrices du travail qui vont adopter une grille de lecture misogyne avec des stéréotypes à l'encontre de victimes. On va voir ça aussi. Chez la médecine du travail, ce qui est très fréquent, c'est une forme de frilosité, on veut surtout pas qualifier les faits. Alors que qualifier les faits, ça appartient à tout le monde. Hein. Le droit, ça appartient à tout le monde. Les médecins du travail, ce sont des professionnels qui sont tout à fait en mesure de qualifier les faits. Je rappelle que les violences sexuelles, au-delà d'infractions pénales, ce sont aussi des fautes professionnelles. C'est pensé dans le Code du travail. Donc le médecin du travail, quand il dit « ce que vous avez subi, madame, ça s'appelle du harcèlement sexuel », il n'est pas en train de jouer les flics ou jouer les juges, contrairement à ce qu'il croit, en fait. Donc les médecins du travail sont normalement tout à fait en mesure de qualifier les faits, seulement ils ne le font pas, par frilosité. Ils estiment bien souvent que ce n'est pas leur place, parce que justement, ils observent tout ça à travers le prisme du pénal. Ils ne replacent pas ça dans le travail. Ils ne replacent pas ça comme la manifestation de dégradation des conditions de travail et de la santé de la victime. Et donc, en fait, ils vont se prononcer sur des choses très individuelles en proposant du télétravail, en proposant d'aller voir une psychologue, en proposant de la méditation. Alors qu'en fait, ce qu'on attend d'eux, des médecins du travail, c'est déjà qu'ils prennent note dans les dossiers de ce que la victime a dit, qui qualifient le harcèlement sexuel. Ça, c'est vraiment important parce que nommer les violences, c'est la première étape pour que la victime puisse faire des démarches et qu'ils fassent des attestations en fait en mentionnant les dires de la victime et notamment les propos et comportements à connotation sexuelle qu'elle a subis. On attend d'eux aussi qu'ils soient un vrai relais dans la transmission d'informations, notamment sur les obligations des employeurs, ce qu'ils ne font pas. Et je pense à un dossier que j'ai en particulier où la victime subit du harcèlement sexuel et du harcèlement moral et il se trouve que l'homme qui commet ces faits-là, en plus de commettre ces violences, fume dans son bureau. Eh bien, le médecin du travail, qu'est-ce qu'il fait? Il se prononce là-dessus en lui parlant de tabagisme passif. On s'en fout. Enfin, je suis désolée, on s'en fout, quoi. C'est pas, il n'est pas là, le problème. Si ce n'est que ça démontre à quel point cet homme-là se sent dans son bon droit, dans tout ce qu'il fait, quoi. Mais c'est pas ça qu'on attend d'un médecin du travail. Et puis, les syndicats, ben, on va voir de tout. On va avoir des syndicalistes qui, fort heureusement, sont formés avec une bonne foi et une volonté d'accompagner les victimes et qui vont, du coup, être un vrai appui pour les victimes, qui vont transmettre toutes les infos sur les obligations de l'employeur, qui vont accompagner les victimes dans leurs démarches, qui vont leur faire des attestations, qui vont être vraiment un soutien tout au long des démarches de la victime. Et quand on voit ça dans nos dossiers, je vous cache pas que ça fait vraiment du bien. Malheureusement, c'est trop rare. Ce qu'on voit aussi beaucoup, ce sont des syndicalistes qui sont dépassés, qui ne savent pas comment agir, même qui veulent bien faire, mais qui n'ont pas les outils, qui ne savent pas. Et puis, on va voir aussi, et ça, c'est vraiment dans tous les syndicats, hein, je ne crée pas de différence entre les syndicats, on peut le voir, que ce soit la CGT, chez Solidaire, la FSU, etc., peu importe. Ce qu'on va voir, c'est deux écoles, avec une partie des syndicalistes qui vont vous dire « les violences masculines au travail, c'est une question de santé et sécurité, et donc mon rôle, c'est d'accompagner la victime ». Et d'autres qui vont vous dire « moi, j'ai toujours lutté contre les licenciements, je ne vais pas serrer la main de l'employeur pour licencier un travailleur ». Or, si on ne licencie pas le travailleur qui a commis du harcèlement sexuel, on le maintient dans l'emploi, et en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que c'est la victime qui s'en va. Et donc, pour des questions en fait, de principes qui sont finalement déconnectées de la réalité, il y a une partie des syndicalistes qui va refuser d'accompagner la victime et qui va être dans une démarche même d'accompagnement de l'agresseur.
Aucun de ces acteurs n'est parfait. Manque de moyens, manque de formation, angle mort, les défaillances existent. Mais c'est justement pour cela qu'il faut multiplier les voies de saisine. Saisir plusieurs interlocuteurs, c'est éviter l'isolement. C'est permettre que, si l'un faillit, un autre prenne le relais. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail ne peut pas reposer sur une seule personne ou une seule institution. Elle suppose une responsabilité collective.
Il y a plein de raisons en fait pour lesquelles les procédures judiciaires sont longues. Ça dépend si on parle du pénal, si on parle de procédures prud'homales ou devant le tribunal administratif, parce que c'est pas les mêmes logiques. Mais ce qui est central dans l'ensemble de ces procédures, c'est un manque de moyens. En fait, la justice, c'est un service public. Vous voyez ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui, avec la fermeture de lits, de services, etc. Vous voyez ce qui se passe dans l'éducation nationale. Ben, la justice, c'est un service public comme les autres. Et donc, ce qui se passe, c'est des moyens de plus en plus faibles, des professionnels du droit qui ne sont pas remplacés, donc on va nous renvoyer un dossier parce que celui qui devait juger l'affaire n'est pas remplacé, il est parti à la retraite. Voilà, c'est des choses comme ça. Enfin, je veux dire, on est quand même à un stade où il n'y a plus de moyens nulle part. Et après, il y a aussi des questions de manipulation de la part de la partie adverse qui va tout faire pour faire prolonger la procédure, demander des renvois tous les 4 matins, avec très très peu d'opposition face aux demandes de renvoi. Hein, devant les conseils de prud'homme, ils acceptent systématiquement les demandes de renvoi. Alors qu'ils pourraient très bien dire, tout le monde est en état, le calendrier de procédure a été respecté, maintenant, ça se plaide et voilà, et c'est comme ça. Mais les demandes de renvoi sont quasi systématiquement acceptées. Cet épuisement, c'est aussi une manière de continuer de victimiser la victime. Dans nos dossiers, et je pense en fait plus largement l'ensemble des victimes de violences masculines, peu importe le type de violence qu'elles ont subie, leur santé est toujours dégradée. Et l'impact, ça va être un impact sur le sommeil, un impact sur les relations sociales, la confiance, la famille, la capacité de concentration, les femmes qui sont aussi des mères qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à répondre à leurs obligations de mère. Ça va être aussi un impact sur le comportement alimentaire, par exemple, aussi. Et puis, une hypervigilance. Les violences sont tout le temps présentes, donc ça envahit l'esprit avec la victime qui va mettre en place tout un tas de paramètres pour éviter d'être de nouveau victime. Et donc, en fait, c'est tout le temps qu'elle déploie à penser à tout ça qui est extrêmement dévastateur, qui prend toute la place dans son esprit, dans son corps. Et donc, bah, évidemment, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là, mais il n'y a pas que le travail. Enfin, en fait, il y a plein d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Et ça atteint finalement tous les pans de la vie. C'est un bon outil, quoi, du travail. Il y a plein de choses qui sont pensées dedans. En matière de prévention, il y a l'obligation de formation, l'obligation d'affichage avec toutes les informations. Pour certaines structures, en fonction du nombre de salariés, l'obligation d'avoir un CSE, d'avoir des personnes ressources, type référent, référente harcèlement sexuel. Donc, c'est pas un problème de manque d'outils, c'est plutôt un problème d'absence d'application où les employeurs estiment en fait qu'ils peuvent ne pas respecter leurs obligations et qu'il ne se passera rien s'ils ne respectent pas leurs obligations. Et donc là, bah, c'est une problématique de... s'il n'y a personne pour contrôler que les employeurs respectent leurs obligations, effectivement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. Donc ça pose, par exemple, la question de l'inspection du travail et de leurs moyens. Mais c'est aussi une question, pas que de l'inspection du travail, mais des syndicats. Les syndicats, c'est un réel contre-pouvoir, en fait, dans les collectifs de travail. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à une telle dégradation des conditions de travail de manière générale. Je ne parle pas que des violences masculines, je parle vraiment de l'ensemble des conditions de travail, avec des logiques toujours plus aliénantes, avec des politiques toujours plus libérales, qu'en fait, je pense que les syndicats finissent par être complètement dépassés. Et à une époque, le but des syndicats, c'était d'obtenir plus de droits. Aujourd'hui, si on arrive à faire respecter ce qu'on a, c'est déjà beaucoup. Et en fait, c'est ce changement de paradigme-là qui est à la fois très déprimant, voilà, je le dis comme ça, et qui est en même temps révélateur de la manière dont le travail a évolué ces 20 dernières années, quoi. La raison pour laquelle il y a des violences dans le collectif de travail, c'est pas juste parce qu'il y a un agresseur et que ce mec-là, il a décidé d'agresser. C'est qu'en fait, s'il agresse, c'est qu'il peut agresser. Et donc, ça veut dire qu'il est dans un climat permissif. Ça veut dire qu'il est dans un climat où il y a des femmes qui n'ont pas d'outils pour se défendre. Ça veut dire qu'il est dans un climat où il sait que s'il commet des violences, on va le laisser faire. Et donc, en fait, quand on met en place de la prévention, on crée un climat dissuasif. Donc, on atteint le sentiment d'impunité de l'agresseur. Donc, en fait, un espace de travail dans lequel la prévention est suffisante, normalement, c'est un espace de travail qui est suffisamment dissuasif pour que l'agresseur n'agresse pas.
Au-delà de la prévention, le Code du travail impose à l'employeur d'autres obligations. Il ne s'agit pas seulement d'anticiper les risques, mais aussi de réagir lorsqu'une situation est signalée, d'enquêter, de protéger la victime et, le cas échéant, de sanctionner l'auteur des faits. Ces obligations ne sont pas facultatives. Elles font partie intégrante de la responsabilité de l'employeur. Pour mieux comprendre ses devoirs, prévention, réaction et sanction, des ressources détaillées sont disponibles, notamment dans les fiches thématiques de la VFT.